VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à Bangui. Bienvenue à notre journal. On commence par la crise migratoire. L'Espagne va accueillir le navire transportant les 629 migrants secourus au large de la Libye, dont le sort était l'enjeu d'un bras de fer entre Malte et l'Italie. C'est ce qu'a annoncé ce lundi le gouvernement du Premier ministre Pedro Sanchez. Il est de notre obligation d'aider à éviter une catastrophe humanitaire et d'offrir un port sûr à ces personnes, indique un communiqué de la présidence du gouvernement précisant que le port de Valence dans l'est de l'Espagne avait été choisi comme destination de l'Aquarius. La Commission de l'Union européenne avait appelé à un règlement rapide de cette impasse et le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés avait exhorté Malte et l'Italie à autoriser immédiatement le débarquement de ces 629 migrants, dont 7 femmes enceintes, 11 enfants en bas âge et 123 mineurs isolés, mais en vain. On passe maintenant à l'Afrique. Au Sénégal, le ministre du Tourisme vient de quitter le gouvernement pour convenance personnelle, dit-on, d'après une information rendue publique par la radio Futur Média et qui n'a pas fait l'objet de démenti. Cité dans un scandale financier, Mam Mbaye Niang aurait déjà transmis sa lettre de démission au Premier ministre sénégalais. Reste à savoir si le président Macky Sall acceptera de lâcher l'un de ses plus fidèles collaborateurs. De Dakar, le point avec notre correspondant Sedina Abagay.
Le ministre du Tourisme est rattrapé par sa gestion lorsqu'il était au ministère de la Jeunesse. Mam Mbaye Niang est cité dans un scandale financier au programme des domaines agricoles communautaires qui était sous sa tutelle. En effet, l'inspection générale des finances a recommandé l'ouverture d'une information judiciaire pour détournement de deniers publics portant sur plusieurs milliards de francs CFA. Les vérificateurs financiers ont en plus recommandé que l'actuel coordonnateur du programme des domaines agricoles communautaires et son prédécesseur soient traduits devant la Cour des comptes. Dans un premier temps, le ministre du Tourisme Mam Mbaye Niang avait déposé une plainte pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles contre les deux sites d'information qu'il avait cités dans l'affaire. Cette démission inattendue intervient moins d'un an après son arrivée au ministère du Tourisme. Auparavant, Mam Mbaye Niang a été ministre de la Jeunesse de 2014 à septembre 2017. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
Au Tchad, les avocats, notaires et huissiers de justice ont décidé de poursuivre leur grève au moins jusqu'au 13 juin, malgré un geste du gouvernement qui a limogé un gouverneur du sud du pays accusé de violence contre un avocat et ses clients relaxés. Le point avec Jean-Roger Bion.
Le personnel judiciaire réclame désormais le limogeage des autorités militaires et civiles impliquées dans ces violences. L'ordre des avocats du Tchad veut également organiser une marche le 16 juin à N'Djamena, la capitale, et boycotter une session d'assises prévue du 11 au 20 juin. La grève des avocats a débuté le 31 mai. Ils avaient ainsi rejoint celle des magistrats entamée 3 jours plus tôt. Le 22 mai, un avocat de Doba, maître Doumra Manassé, s'était dit victime de tirs par des gendarmes sur sa voiture alors qu'il transportait 3 clients relaxés. Ces derniers avaient ensuite été bastonnés et emmenés dans les locaux de la gendarmerie de Doba, d'après lui. Après l'envoi d'une mission d'enquête du ministère de la Justice à Doba, qui avait recommandé le départ du gouverneur et du commandant de gendarmerie de la région de Logone oriental, le gouverneur Adam Nouki, Charfadine, avait été démis de ses fonctions le 6 juin par le président Idriss Déby.
En RCA, un casque bleu burundais a été tué dimanche soir à Bambari, dans le centre du pays, lors d'affrontements entre des hommes armés et des soldats de l'ONU et des FACA, les forces armées centrafricaines. Un soldat des FACA a également été blessé. L'information a été confirmée à l'AFP par des sources à Bambari et à Bangui. Les affrontements ont eu lieu entre 17h et 20h, heure locale, 16h et 19h, temps universel, dimanche. Un convoi des FACA en route vers Bangassou, dans le sud-est du pays, où l'armée centrafricaine va être redéployée selon l'ONU, a été pris dans ses combats à Bambari. Le convoi a été attaqué par des combattants du groupe armé Union pour la paix en Centrafrique, UPC, selon une source de la gendarmerie de Bambari qui ajoute que plusieurs membres du groupe armé ont été tués durant les affrontements.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Afrique du Sud, à un an des élections générales, le Congrès national africain au pouvoir a promis d'accélérer la réforme de la terre au profit de la majorité noire dépossédée pendant l'apartheid. Le gouvernement sud-africain prévoit notamment d'exproprier sans indemniser pour restaurer, dit-il, la dignité des Noirs. Pour analyse, Eric Manirakiza a joint à Pretoria le professeur à l'Institut de droit international et comparé à l'UNISA, André Thomas-Hausen.
Dans l'année 1913, le pouvoir colonial anglais avait passé une loi par laquelle 86% des terres en Afrique du Sud furent réservées pour la propriété aux blancs. C'est-à-dire un noir, un africain, ne pouvait pas acquérir la propriété des terres dans cette zone énorme, dans pratiquement la totalité de l'Afrique du Sud. Ainsi, il y a une injustice historique qu'il faut essayer de résoudre.
Comment le faire ?
On a essayé de le faire à travers la restitution des terres. Quand il y a eu des familles ou des communautés africaines qui pouvaient démontrer qu'ils étaient déplacés de leur territoire traditionnel où ils avaient vécu avant 1913, ils ont acquis un droit de restitution. Le gouvernement a restitué en effet 14% des terres fertiles en Afrique du Sud, mais le programme a pas seulement coûté beaucoup d'argent parce qu'on a dû payer les compensations, mais aussi le programme a échoué. Pratiquement la totalité de ces terrains restitués ne sont plus productifs. Parce qu'ils ont été restitués à des gens qui ne sont pas des agriculteurs. Et les terrains, aujourd'hui, se trouvent abandonnés.
L'année prochaine, vous allez avoir des élections. Est-ce que vous pensez que Cyril Ramaphosa pourra régler cette situation ?
Très difficile. Il y a une résistance très forte du secteur agricole. Le secteur agricole productif, il est pratiquement à 100% blanc. Et ces gens-là, évidemment, ils ont peur. Ils ont peur d'une interférence dans leurs droits acquis. Aussi, pas possible de faire des investissements quand il n'y a pas une certainté sur le titre de propriété. Ça va très facilement provoquer une crise dans la production agricole, même pour la sécurité alimentaire. Et pour l'ANC, c'est difficile pour Ramaphosa de trouver un compromis entre la gauche du parti et aussi le parti d'opposition d'extrême gauche, les lutteurs pour la libération économique de M. Malema. Je pense qu'ils vont pas pouvoir passer une nouvelle loi avant l'élection de 2019. Ils vont essayer de faire quelques réformes, de donner un peu plus d'appui technique et d'appui de formation aux nouveaux propriétaires des terrains qui ont déjà été restitués pour essayer d'en faire un succès. Mais d'exproprier maintenant des terres qui sont productives serait un énorme risque économique.
André Thomas-Hausen, professeur à l'Institut de droit international et comparé à l'UNISA en Afrique du Sud. Actualité américaine maintenant à Singapour. Le président Donald Trump a affiché ce lundi son optimisme à la veille de son sommet très attendu avec le leader nord-coréen Kim Jong-un sur la dénucléarisation de la Corée du Nord. Les enjeux du sommet avec Jacques Aristide.
L'arsenal nucléaire nord-coréen qui a valu à Pyongyang une impressionnante série de sanctions de l'ONU au fil des ans sera au cœur des pourparlers après des décennies de tensions entre les États-Unis et la Corée du Nord. À Singapour, invité à dire comment il envisage son tête-à-tête inédit de mardi, le président Trump a répondu « très bien ». Washington réclame une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible de la Corée du Nord. Pyongyang s'est déclaré favorable à une dénucléarisation de la péninsule, mais cette formule très vague laisse la place à d'innombrables interprétations. Possible résultat concret évoqué par Washington, un accord de principe pour mettre fin à la guerre de Corée, techniquement Nord et Sud, sont toujours en guerre. Avant de quitter le sommet du G7 au Canada samedi, M. Trump a affiché son optimisme sur cette rencontre, dont il espère faire un marqueur de sa présidence. De son côté, peu après son arrivée à Singapour, Kim Jong-un a rencontré le premier ministre du pays, Lee Hsien Loong, qui a salué la décision courageuse et admirable d'organiser ce sommet.
Et pour terminer, Ebola en RDC, le directeur général de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a exprimé l'espoir dimanche de pouvoir en finir très bientôt avec l'épidémie de fièvre hémorragique qui a causé la mort de 27 personnes dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo. Et ce 21 jours après la vaccination ciblée de plus d'un millier de personnes. Le docteur Tedros Adhanom effectue actuellement une visite d'évaluation de la situation dans la province de l'Équateur, dans le nord-ouest du pays, où l'épidémie a été déclaré le 8 mai par les autorités. C'est la 9e fois que la RDC est touchée par une épidémie d'Ebola depuis 1976. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.